Troisième sophisme, toute critique de la psychanalyse repose sur une critique de Freud, qui était juif, elle est donc toujours suspecte d'antisémitisme. Comme ça, l'affaire est réglée, Freud était juif, vous dites que Freud dit des bêtises, eh bien vous dites « Ah ben, vous êtes antisémite ». Évidemment, la chose est claire. Alors évidemment, on est dans une période qui est avant Auschwitz. Entendons-nous bien, cette espèce de sophisterie, elle a des dimensions particulières avant Auschwitz, elle en a d'autres ensuite. L'idée de traiter d'antisémite des gens après la Shoah, ça signifie quand même autre chose que de les traiter d'antisémites dans une époque où, de toute façon, l'antisémitisme est indéfendable par quelque forme que ce soit, mais de considérer que l'antisémitisme à cette époque-là ne contribue pas à envoyer des gens dans les chambres à gaz. C'est par la suite que les choses se penseront en regard de la chambre à gaz. Il ne faut pas oublier non plus que cet antisémitisme-là, d'avant Auschwitz, peut-être un antisémitisme de petits ruisseaux qui finira par faire les grandes rivières du national-socialisme. Donc il faut raison garder, faire de l'histoire en se disant l'usage du juif comme d'une figure détestable ou adorable n'est pas le même, l'usage donc avant 1933, enfin 1942, on dirait ou 1944 et 1945, la libération des camps, avant ou après. Freud lui-même donne l'argument, puisque dans la fameuse autoprésentation, il écrit « La psychanalyse est devenue le contenu de ma vie. » La psychanalyse est devenue le contenu de ma vie. Ce qui veut dire que vous mettez un signe d'égalité entre Freud, freudisme et psychanalyse. Voilà pourquoi il ne peut pas accepter qu'il y ait une psychanalyse avant lui, celle de Breuer, celle de Forel, qu'il ne peut pas expliquer ou justifier ou accepter qu'il y ait une psychanalyse pendant lui, celle d'Adler, celle de Jung, celle de Ferenczi, celle de quelques autres, et qu'il ne pourrait pas non plus accepter que 50 ans plus tard, il y ait une psychanalyse existentielle sartrienne, ou qu'il y ait un freudomarxisme chez, pas 50 ans plus tard, mais beaucoup plus tôt, mais chez Erich Fromm, chez Marcuse ou chez Reich, dont nous parlerons l'an prochain. Ça n'est pas possible. La psychanalyse, c'est lui. Il nous le dit. La psychanalyse, c'est moi et personne d'autre. Donc si on veut être psychanalyste, on est freudien. Et si on est freudien, on adhère à tout. Et si on n'adhère pas à tout, c'est qu'on est antisémite. Il dit régulièrement qu'il s'est éloigné des pratiques judaïques. C'est vrai. Et on le voit quand il s'est marié avec Martha, qui elle-même était juive. Martha souhaitait pratiquer, obéir à un certain rituel. Et Freud a interdit que dans la maison, on pratique le rituel. C'est-à-dire qu'à Pâques, il y avait la cérémonie des œufs dans le jardin et que Freud était, on pourrait dire, un judéo-chrétien. C'est-à-dire quelqu'un qui était d'origine juive, mais qui avait laissé de côté le rituel juif pour accepter le principe chrétien dans une aventure qu'on pourrait appeler judéo-chrétienne. Mais il avoue, par ailleurs, qu'au plus profond de lui, il est juif. Et pour ça, il faut lire l'œuvre complète. Et quand vous avez lu l'œuvre complète et que de temps en temps vous dites préface à la traduction en hébreu de Totem et Tabou, vous dites « je pourrais passer ça », non, il faut lire ça. Et quand vous lisez la petite poignée de pages, ça ne fait pas grand-chose, hein, mais la petite poignée de pages de ce fameux avant-propos à l'édition en hébreu de Totem et Tabou, vous découvrez que Freud dit qu'il s'inscrit, que son travail s'inscrit, la psychanalyse, hein, ouvrez les guillemets, « dans l'esprit du nouveau judaïsme ». Dans l'esprit du nouveau judaïsme. J'ignore la pensée talmudique, la pensée juive, c'est un univers que je ne connais pas et je ne veux pas m'engager sur ce genre de terrain parce que je n'ai pas les moyens intellectuels de comprendre ces choses-là, sauf que j'ai souhaité comprendre ce que ça pouvait signifier chez Freud, le nouvel esprit, enfin l'esprit du nouveau judaïsme. C'est quoi le nouveau judaïsme? L'ancien judaïsme, on le sait tous plus ou moins, par la culture, par la lecture, mais qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui, l'esprit du nouveau judaïsme? Il ne donne pas de détails. Il nous dit simplement qu'un jour, la science, on sait ce qu'il appelle la science, hein, la science permettra probablement de comprendre ce que ça signifie être juif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut croire? La science, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait un gène de la judaïté? Certains le pensent. Certains juifs le pensent. Certains juifs pensent qu'avec une prise de sang, on peut savoir si effectivement vous avez des marqueurs qui feraient la preuve que vous auriez du sang juif. Lecture raciale des choses, bien sûr, voire lecture raciste. Parce que on peut aussi être juif et raciste en considérant effectivement qu'il y aurait des races pures et des races impures et que la race pure ne se mélange pas avec les races impures. C'est le fondement, je dirais, du racisme. On n'en saura pas plus sur Freud. On pourrait presque extrapoler. Mais là, j'extrapole, mais il faudrait un travail avec des gens ayant des compétences qui ne sont pas les miennes, mais extrapoler en pensant que Freud pense la psychanalyse comme un nouveau judaïsme, comme une espèce de religion nouvelle, juive en l'occurrence, qui nous permettrait, autour de cette figure de l'inconscient, figure nouménale, donc qui ressemble à quelque chose d'assez divin, qui disposerait des caractères d'un dieu juif, d'un dieu intelligent, malin, rusé, subtil, parce qu'il est la raison, il est l'intelligence, parce qu'il est, il est susceptible de... Il recule quand vous vous avancez. Enfin, n'y voyez pas malice de ma part. Mais, et dès que vous avez une définition, eh bien, on s'aperçoit que la définition ne marche pas. Si vous dites qu'il est grand, ça veut dire qu'il n'est pas petit. S'il n'est pas petit, ce n'est pas Dieu. Donc il est grand et il est petit en même temps. Oui, mais pas justement grand et petit. Enfin, vous avez tout ce qu'on appelle le pic-poule, c'est-à-dire tout le génie juif de la langue et du langage qui rend possible un Dieu qui n'est pas Dieu tout en étant Dieu. Et on pourrait imaginer, hypothèse, là encore, que le fameux l'esprit du nouveau judaïsme, eh bien, Freud le pose dans la psychanalyse. De sorte que là, verrouillage intégral, si vous vous opposez à la pensée de Freud, de fait, vous êtes radicalement un antisémite. Alors, il utilise cet argument, moins ontologique, moins métaphysique, moins théorique, je dirais, l'argument de l'antisémitisme de base. Du genre, on persécute les juifs parce qu'ils sont juifs et ils ne peuvent pas occuper des places importantes ou des places majeures dans la société parce que les Autrichiens verrouillent et interdisent que des juifs soient avocats, médecins ou occupent des positions stratégiques dans la société. Il nous dit que quand il ne progresse pas assez vite dans la hiérarchie universitaire, c'est parce qu'il est juif. Quand il estime que la psychanalyse ne s'impose pas assez vite, c'est parce qu'il est juif. Et donc, effectivement, ça devient problématique de ne pas être d'accord avec Freud, parce qu'immédiatement, vous êtes taxé d'antisémitisme. Même chose quand il s'agit de supprimer les opposants. Pierre Janet, il faudrait aussi, et là, je n'ai pas les compétences pour ça, mais il faudrait consacrer un travail à Pierre Janet, qui est un personnage important, agrégé de philosophie, professeur au Collège de France, contemporain de Freud, travaillant la clinique lui aussi, mais pas comme Freud, c'est-à-dire la clinique de Freud, on voit bien qu'elle procède plus de son bureau, de son papier, de son fantasme, que de l'examen, que de la disponibilité à l'endroit des patients, des malades, en disant « les malades vont m'apprendre des choses ». Freud n'a pas cette modestie-là. Pierre Janet pense qu'effectivement, les malades ont des choses à lui apprendre, qu'il faut les écouter, qu'il faut croiser les informations, qu'il faut procéder de manière épistémologique ou avec une épistémologie digne de ce nom, pour pouvoir parvenir à des conclusions sûres, vérifiables, susceptible de reproductibilité. C'est-à-dire, si vous avez conclu à quelque chose, une théorie, eh bien, cette théorie, si vous la revérifiez, elle sera vérifiable à nouveau. Pour le dire plus concrètement, si rêver de ceci signifie cela, eh bien, il faut qu'à chaque fois que vous rêvez ceci, ce soit cela. Et à ce moment-là, il faut que 500 fois vous refassiez l'expérience et que vous puissiez faire la démonstration que 500 fois vous obtiendrez la même réponse pour qu'on puisse parler d'une vérité scientifique et qu'on puisse vraiment utiliser le terme vérité. Donc, comme Pierre Janet a eu de la prudence, et que, pour le coup, Freud était imprudent, et affirmait très vite des choses infondées en disant qu'il avait derrière lui la clinique, évidemment, c'est plus facile de voler au secours de la victoire et de croire que Freud avait inventé plein de choses et que Janet n'avait rien inventé. Les théories de Janet se retrouvent chez Freud, et puis les théories de Breuer, et puis les théories de plein de gens. C'est-à-dire qu'on oublie la plupart du temps quand on dit « oui, mais Freud a inventé quand même les lapsus, les actes manqués, etc., l'oubli des noms propres ». Pas du tout. Il y a toute une littérature qui existait à cette époque-là de gens qui étaient des psychologues qui procédaient modestement, qui ont fait des articles, et Freud a fait une belle synthèse de tout ça. Jacques Van Rialer a fait tout ce travail magnifique pour montrer quels étaient les emprunts de Freud dans cette aventure. Donc Pierre Janet est quelqu'un qui, au Congrès international de médecine à Londres en 1913, parle du pansexualisme freudien. Pansexualisme, c'est de voir du sexe partout. Il dit en gros, Freud, il voit du sexe partout, il n'y a pas que du sexe dans la vie et dans les névroses. Et Pierre Janet aurait dit effectivement que le pansexualisme freudien procédait de l'atmosphère spécifique de Vienne, dans laquelle la sexualité prenait une place exagérée. Bon, c'est un argument un peu court, c'est un argument très 19e siècle, un argument qu'on trouve chez Taine, enfin l'idée que le milieu produirait des idées et que des idées apparaîtraient dans un lieu et pas ailleurs, et qu'il faut Vienne pour que le pansexualisme surgisse, alors qu'à Paris, le pansexualisme ne surgit pas de la même manière. Ça vaut ce que ça vaut, simplement on peut, pour prêter secours à Pierre Janet, faire savoir que cette fameuse Vienne, elle est tout de même la Vienne du Kraft-Ebing, qui écrit Psychopathologie sexuelle, un volume qui fait 700-800 pages et qui recense la totalité des perversions possibles et imaginables de l'ondinisme à la coprophagie, la zoophilie, la nécrophilie, enfin toutes ces choses-là. Si vous avez envie de vous amuser avec votre compagnon ou votre compagne, vous achetez la Psychopathia Sexualis de Kraft Ebing et vous verrez que vous risquez de vous amuser. Il y a aussi Sacher-Masoch, qui est l'auteur de La Vénus à la fourrure, le personnage avec lequel on va fabriquer le masochisme, c'est-à-dire la jouissance qu'il y a à souffrir. À subir de la souffrance, à recevoir de la souffrance, la jouissance dans la souffrance. C'est également la ville d'Otto Weininger, qui a écrit « Sexe et caractère », texte très misogyne, très agressif sur les femmes, où il considère, un peu dans l'esprit aussi d'un Schopenhauer, qu'effectivement la libido, c'est-à-dire en latin la pulsion sexuelle, elle fait la loi, elle est la vérité de tout un chacun. Donc évidemment, ça vaut ce que ça vaut, mais ça se discute. L'idée que Pierre Janet puisse dire de Freud que sa théorie voit du sexe partout, mais que voir du sexe partout quand on est viennois, c'est un peu normal parce que Vienne est ainsi faite, eh bien, c'est un argument que Freud ne critique pas. Mais il utilise un autre argument, avec l'insinuation. Et l'insinuation est une méthode redoutable. À aucun moment, Pierre Janet ne fait savoir que Freud est juif et que c'est peut-être parce qu'il est juif qu'il a cette théorie du sexe. Mais Freud lui-même va laisser entendre que peut-être, point de suspension, je vous donne deux textes. Dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, il écrit, donc sur cette prise de position de Pierre Janet, « Selon ce point de vue, la psychanalyse, en l'occurrence l'affirmation que les névroses se ramènent à des troubles de la vie sexuelle, ne pourrait être née que dans une ville comme Vienne, dans une atmosphère de sensualité et d'immoralité qui serait étrangère à d'autres villes. Elle présenterait tout simplement l'image, pour ainsi dire la projection théorique, de ces conditions viennoises particulières. » Donc, dans ce volume 12 de l'œuvre complète, dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, Freud reprend cette idée de Janet en disant, Janet me critique en disant, le pansexualisme freudien a à voir avec les conditions de l'émergence de la psychanalyse dans une Vienne où le sexe est partout. C'est une théorie insensée, dit Freud. On peut le croire, pourquoi pas. Mais qui pourrait bien en cacher une autre? Voilà, la perversion qui avance doucement, il pourrait bien en cacher une autre. Point de suspension. Il n'en dit pas plus. Et vous avez dans cette édition une note de l'éditeur, et la note de l'éditeur, deux points, ouvrez les guillemets, allusion vraisemblablement aux origines juives de Freud. Donc effectivement, on n'a pas dit qu'il était antisémite, mais on a laissé croire que peut-être c'était parce que, par antisémitisme, que Pierre Janet n'était pas d'accord avec Sigmund Freud. La chose est dite sans être dite, elle est insinuée, c'est extraordinaire l'insinuation. On n'a pas dit, mais on a laissé croire que peut-être. Je vous lis un deuxième texte, « Résistance à la psychanalyse ». Là, les choses sont plus clairement dites. Résistance à la psychanalyse, deux points, ouvrez les guillemets. Pour terminer, je veux, sous toute réserve, soulever la question de savoir si ma qualité de juif, que je n'ai jamais songé à cacher, n'a pas été, pour une part, dans l'antipathie générale contre la psychanalyse. Pareil argument n'a été que rarement formulé expressément. Nous sommes malheureusement devenus si soupçonneux que nous ne pouvons nous empêcher de douter que ce fait soit resté sans influence aucune. Ce n'est peut-être pas un simple hasard que le promoteur de la psychanalyse, lui donc, se soit trouvé être juif. Pour prôner la psychanalyse, il fallait être amplement préparé à accepter l'isolement auquel condamne l'opposition, destinée qui, plus qu'à tout autre, est familière aux Juifs. Donc Freud nous le dit, je suis juif, mais c'est normal, moi, j'ai l'habitude de la persécution, c'est pas étonnant du tout qu'on me persécute, c'est le destin de tous les Juifs, et donc la psychanalyse, eh bien, c'est une science juive, d'une certaine manière. C'est étonnant de voir sous la plume de Freud une espèce de pensée comme celle-ci, puisque si vous n'êtes pas d'accord avec cette science qui est juive, c'est donc que vous êtes antisémite. Je propose juste une espèce de petite liste, elle est facile à repérer. Je me suis servi de la chronologie de la psychanalyse du temps de Freud, qui a été rédigée par Olivier Douville. C'est un livre qui est constitué de 200 pages de faits bruts. C'est-à-dire on démarre avec l'année de naissance, on termine avec l'année de sa mort, et on explique ce qu'a été la vitesse de propagation de la psychanalyse sur la planète entière. Donc voilà donc un personnage qui nous dit « on ne m'aime pas, on ne s'occupe pas de moi, on ne fait pas de compte-rendu, quand il y a des compte-rendus, ils sont mauvais, les gens sont méchants, j'ai pas de promotion à l'université, certes on me connaît, mais on me connaît pas beaucoup, on me connaît pas bien, etc. etc. » Donc je démarre avec la première mention qui est faite du travail de Freud. On est en 1899. Freud n'a pas écrit grand-chose. Il a écrit conjointement avec Breuer les études sur l'hystérie. Il n'a pas écrit encore l'interprétation du rêve, dont il prétend que c'est son texte génial et celui qui va marquer l'humanité tout entière. Donc Freud a publié quelques petits trucs, notamment ses travaux sur la cocaïne, et qu'il a laissé de côté pour les raisons que vous savez. Donc il y a ça dans sa bibliographie et pas de texte majeur. Eh bien, dès 1899, à Salvador de Bahia, l'école de médecine commence à commenter ses propres travaux. Freud a 43 ans, il n'a rien fait encore. Hein. La naissance de la psychanalyse, 1896, le mot, 1896, 3 ans après la naissance du mot, on a déjà des commentaires de son travail à l'école de médecine de Salvador de Bahia. La même année, 1899, à la Clark University des États-Unis, on commente ses études sur l'hystérie. À Lyon, en 1900, une thèse est soutenue qui s'appuie sur ses travaux. Ça fait quand même 4 années après l'invention de la psychanalyse. Vous avez déjà une thèse qui se soutient à Lyon, c'est-à-dire pas à Vienne, par un personnage qui s'appuie sur ses travaux. 1902, Bergson, qui est une vedette totale à l'époque, parle de Freud dans une conférence donnée à l'Institut général de psychologie. En 1903, au Japon, Mori Ogai, le plus célèbre écrivain de l'ère Meiji, mentionne la théorie freudienne de la sexualité dans un article de médecine. L'année suivante, en Argentine, un psychiatre criminologue mentionne Freud dans un article. La même année, Sur le rêve est traduit en Russie. En Suisse, Bleuler recourt à la psychanalyse dans une clinique. En 1905, en Inde, le bulletin psychologique signale l'existence de la psychanalyse. Même chose en Norvège. Aux Pays-Bas, Auguste Sterke ouvre un cabinet d'analystes et publie sur le sujet. En 1909, lors de sa traversée de l'Atlantique, mais là encore, c'est Freud qui le dit. Et comme on le sait avec Freud, quand il n'y a pas de documents, quand il n'y a pas de témoignages, on n'est jamais très sûr que la chose ait été dite, surtout quand il n'y a pas de témoins. En 1909, il traverse l'Atlantique avec Jung. Il s'en va là-bas pour être fait d'ailleurs docteur honoris causa. Docteur honoris causa, ça veut dire qu'aux États-Unis, on lui donne un doctorat honoris causa pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'aime pas, qu'on ne traduit pas, qu'on n'invite pas, pour quelqu'un qui n'existe pas, pour quelqu'un qui est persécuté parce qu'il est juif. Il y a des persécutions qu'on aimerait avoir quand elles sont celles-ci. Il nous dit qu'il découvre un garçon de cabine sur le transatlantique qui était perdu dans la lecture de sa psychopathologie de la vie quotidienne. 1910, la psychanalyse rentre à Cuba. Freud a 54 ans. Et j'arrête là, hein, 54 ans. C'est-à-dire qu'il a encore une trentaine d'années à vivre. Vous imaginez à quoi ressemble la diffusion de ce travail sur la planète. Je pense qu'il faut arrêter de dire qu'effectivement, on ne l'a pas assez connu, pas assez aimé, pas assez soutenu, pas assez défendu et qu'on l'a persécuté.